Aujourd'hui, à Rencontre, un ancien communiste qui s'intéresse à Mère Teresa, Luc Balbon. Luc Balbon, qui a 34 ans, a été membre du Parti communiste français de 1973 à 1978. Or, c'est en apercevant Mère Teresa à la télévision que sa vie s'est transformée. Il a décidé de publier une série d'entretiens vraiment surprenants sur Mère Teresa, entretiens qu'il a eus avec des incroyants d'une part, et d'autre part avec des juifs, des musulmans, une hindoue, un lama tibétain, un orthodoxe et des catholiques. Luc Balbon, qui est journaliste et directeur de collection chez un éditeur, est interviewé à Paris par Marcel Brisebois.
Luc Balbon, pourquoi ces entretiens sur et autour de Mère Teresa ?
Plutôt autour de Mère Teresa. Ce n'est pas un livre sur Mère Teresa. C'est surtout un livre autour de sa manière d'être. Comme je le dis dans ma préface, tout enfin, Mère Teresa n'est pour moi ni Dieu, ni gourou, ni maître. C'est une manière de vivre propre à changer la nôtre. Je reprendrai, peut-être pour l'expliquer, une parabole du Talmud que me cite un de mes interviewés dans ce livre, Claude Vigée, l'écrivain juif Claude Vigée, une parabole talmudique qui dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a posé le monde sur trois pieds, sur un trépied, dont l'un des pieds branlait et mettait le monde en danger. Il a donc été chercher une petite pierre pour caler l'un des pieds. Et cette petite pierre, il l'a appelée Chesed. Le Chesed, en hébreu, c'est la tendresse. Or, Mère Teresa est la tendresse qui cale notre monde. C'est la tendresse sans laquelle le monde d'aujourd'hui, le monde futur, ne peut pas bien aller, ne peut pas vivre en pleine harmonie. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire converger vers cette tendresse, vers cette manière d'être, des hommes, croyants, catholiques, mais aussi des incroyants et des croyants toutes religions confondues. C'est-à-dire, vous trouvez là un lama bouddhiste tibétain, des musulmans, des juifs, une jeune femme de confession hindoue, et voilà.
Comment avez-vous choisi vos invités ?
Je crois, tout d'abord, j'avais quelques invités dans la tête, dans le collimateur, des gens comme Christian Chabanis, qui sont aujourd'hui des amis de toujours. J'avais rencontré Christian au cours d'une conférence dans une paroisse de la périphérie parisienne, et Christian venait d'écrire « Dieu oui, Dieu non ». Et j'avais été vraiment touché par ce qu'il avait dit. Donc j'avais envie, lui, de le prendre. Quand j'ai eu l'idée de ce livre, c'est d'ailleurs la première personne avec laquelle je me suis entretenu de ce livre. Il m'a encouragé à le faire, et de là, Christian m'a renvoyé sur quelques autres interviewés. Et puis il y a eu le hasard. C'est-à-dire Claude Vigée, par exemple, je n'avais pas prévu de prendre Claude Vigée. Je voulais prendre le rabbin Robert Kaplan en tant que juif observant. Et puis Robert Masson m'a fait découvrir Claude Vigée. Je n'ai pas eu à me plaindre, puisqu'aujourd'hui Claude Vigée aussi est un de mes amis et que je prépare aussi pour janvier 85 un livre avec lui qui va s'appeler « Vivre à Jérusalem ». Donc à la fois la connaissance livresque, le contact direct, et puis aussi le hasard, une tierce personne qui a été un médiateur intéressant entre les interviewés et moi-même.
Et toutes ces personnes ont comme un dénominateur, comme centre d'intérêt commun, Mère Teresa.
L'amour de l'autre, surtout.
L'amour de l'autre.
Hein. L'amour de l'autre. Mais attention, quel amour ? Il s'agit de définir l'amour. L'amour, vous avez de multiples définitions dans l'amour. L'amour, c'est aussi l'amour qu'on porte à un chanteur, n'est-ce pas, avec ou un acteur de cinéma, avec des images qu'on met dans sa chambre, des disques qu'on écoute. L'amour, c'est aussi le frottement de deux épidermes, et pourquoi pas, ça fait aussi partie de l'amour. Tandis que Mère Teresa, c'est l'amour unique. C'est l'amour qui porte à la personne un regard personnel, un. Aujourd'hui, on parle souvent par vocable appartenant au registre de la matière. Les ouvriers, les travailleurs, les cadres, les Chinois, les Américains, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Mère Teresa, elle rencontre une personne à la fois. Et elle lui dit, tu es aimé, je t'aime, tu es utile, tu es utile.
Vous l'avez rencontré, vous ?
Non, absolument pas.
Alors comment avez-vous rencontré cette tendresse, cet amour ?
par son regard, par son visage, hein, un visage dépouillé de tout, à la télévision en 1978 ou 1979, je ne me souviens plus exactement. Et l'homme, la société dans laquelle on vit, et l'homme, les hommes qui vivent autour de nous, tout autour de nous, ne vivent que par des masques et des apparences. Et il est rare de rencontrer des personnes qui ont un visage aussi nu, sur lequel on ne peut rien cacher. C'est-à-dire qu'au-delà de là, vous avez des pauvres, vous avez des riches, je suis frappé, moi, dans ma fonction de journaliste, bien souvent, il m'arrive de rencontrer quelqu'un, je vais l'interviewer, et puis il parle comme l'institution qu'il représente, c'est-à-dire il a le masque de la fonction. Et puis quelquefois, on a la chance qu'au-delà du magnétophone, au-delà de l'article, le masque tombe. Et là, tout d'un coup, on découvre l'homme. Et c'est ce qui m'intéresse, que les gens soient pauvres, que les gens soient riches, qu'ils votent à gauche ou qu'ils votent à droite. Je veux dire, l'homme m'intéresse. Il y a des pauvres qui peuvent être salopards, et il y a des riches qui peuvent être des gens très bien.
Vous écrivez au tout début, c'est les premiers mots d'ailleurs de votre texte, quoi. Aimer l'autre de cet amour intégral. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un amour intégral ?
L'amour plein. L'amour intégral, pour moi, c'est dire à l'autre qu'il ne va pas mourir. C'est ce sentiment d'éternité. Quand on le regarde, quand Mère Teresa regarde quelqu'un, elle porte sur lui un regard qui veut dire « Toi, tu ne mourras jamais. Tu seras éternel. »
Mais c'est de la fabulation.
Non, ce n'est pas de la fabulation.
Vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas rencontré.
Mais si, je l'ai rencontré. J'ai rencontré son regard à la télévision. Et même l'écran ce soir-là ne pouvait pas mettre une barrière entre moi et elle. Ce n'était pas possible.
Et vous admirez aussi d'autres personnes.
Absolument. Il y a des gens qui brûlent aussi de ce même amour. Et pas seulement des croyants. Robert Masson me parle d'Edmond Kaiser, qui est un incroyant et pourtant brûle au plus profond de lui-même, au plus intime de son intime, d'un amour de feu. Ces gens-là, je les admire. Ceux qui savent parler à l'autre, ceux qui savent lui dire « tu es aimé, tu es utile, surtout, tu es utile ». Après tout, amour, c'est aussi, ça peut être très péjoratif. On a tellement utilisé ce mot et on a tellement fait de choses répréhensibles au nom de l'amour. L'amour, c'est porter ce regard éternel. C'est surtout se sentir responsable, responsable de l'autre. Prendre sur soi pour l'autre. Je crois que c'est ça.
Mais ce qui me frappe, en tout cas, dans ce que vous dites, surtout, c'est l'admiration. Parce qu'il me semble que... Enfin, vous êtes journaliste, vous m'avez dit, n'est-ce pas ? Vous êtes relativement jeune, enfin, vous n'avez pas 40 ans. Il me semble que les gens de votre génération, et surtout les journalistes, sont plutôt marqués par le sens critique, par le soupçon, que par l'admiration.
Mais l'admiration n'empêche pas le sens critique. Je dis aussi qu'il y a des moments, dans ce qu'elle dit, je la rejette totalement, dans la préface. Je la rejette et que je repousse ce Dieu chrétien qu'elle porte en elle. Il y a des moments où elle me tape vraiment sur les nerfs. Mais pourtant, invinciblement, j'y reviens.
Invinciblement, pourquoi ? À cause de ce que vous venez de me dire, à cause de cet amour, ou s'il y a quelque chose de plus fort qui parlerait en vous plutôt qu'en elle ?
Ben, invinciblement, pourquoi ? Regardez ce qui se passe autour de nous. Je veux dire. Vous avez l'Est et l'Ouest qui se... Dans mon métier de journaliste, au sein même du quotidien, c'est-à-dire cette horizontale de tous les jours qu'on fréquente, qu'on côtoie. Regardez cette misère. Or, Mère Teresa, c'est le remède à toutes les misères. Je veux dire, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, aime ton prochain comme toi-même. C'est le remède à quoi ? C'est le remède, par exemple, à la montée de l'armement entre l'Est et l'Ouest. C'est le remède au décalage entre le Nord et le Sud. C'est en même temps très social, la Mère Teresa. C'est en même temps très social. Souvent, on occulte ce côté social. On pense que, bon, c'est, comme disent les athées, souvent, cucu béni, qu'elle a des hosties coincées sous les gencives. Mais bon sens, ça répond à tous les maux sociaux.
Un certain nombre de gens...
Toutes les idéologies, elles ont fui, je veux dire. Depuis le temps qu'on nous promet des mondes meilleurs et des lendemains qui chantent, où sont les mondes meilleurs et les lendemains qui chantent avec toutes les idéologies, avec toutes les politiques, avec tout ce qui s'écrit, avec tous les journaux ? On ne le voit pas.
Un certain nombre de vos invités, enfin des gens avec qui vous êtes entretenus, semblent gênés précisément par cet amour. Ils ont l'impression là d'être écrasés, d'être dominés.
Mais moi-même, parfois, je suis gêné par cet amour en même temps. Mais vous vous rendez compte ce que c'est pour un être comme nous, un être du commun, qui sommes moi-même envahis par l'orgueil, par la position sociale, j'ai aussi envie de réussir. Et tout d'un coup, on se trouve face à face avec un être qui vous dit, moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas, tout ça, c'est vain. Quelle gêne !
Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, justement, et cette rencontre première à la télévision et ces entretiens que vous avez eus avec ces invités?
Déjà, au niveau personnel, le retour à la méditation et à la prière. J'en parlais tout à l'heure avec des amis au restaurant. Je suis en train de lire un livre de Waltraud Erbstritt, une Allemande, une carmélite du père supérieur du couvent de Tübingen. Et je crois que c'est la première fois que je lis un livre sans souci de me cultiver, comme un besoin biologique, organique. J'ai besoin de lire ce livre de prière et de méditation 20 minutes tous les soirs avant de m'endormir.
Qu'est-ce que vous y trouvez ?
La force. La force de pouvoir me lever le lendemain matin et de pouvoir continuer mon métier.
Parce que vous vous sentez accablé par ce monde ?
Pas accablé. J'aime le monde, j'aime la vie. Mais je pressens que sans le ciel, sans ce qu'il y a là-haut, je ne pourrais pas avoir la force de lutter chaque jour, d'écrire chaque jour pour défendre la vie. Je suis frappé souvent. Je rencontre des journalistes qui ne sont pas croyants, qui alignent comme ça. Mais sans être croyant, je veux dire, mais qui ne ressentent pas autre chose que le souci d'aligner des jolis mots et de faire des beaux articles. Mais pour qui et pourquoi ? Si on ne défend pas la vie éternelle, même les incroyants, il faut désespérément tourner invinciblement, se tourner vers ce regard-là, ce regard qui dit à l'autre, toi tu es éternel. Sinon je ne vois pas à quoi ça sert d'écrire, à quoi ça sert de faire des livres.
Vous avez toujours été croyant ?
Non. Non, j'ai eu une éducation religieuse, fort fort moyenne, hein, sans me poser trop de questions. Ensuite, je suis rentré au Parti communiste en 1973. Je l'ai quitté en 1978.
Vous êtes pourquoi,
mais d'une incroyance peu tranquille.
Qu'est-ce que vous pensiez trouver au Parti communiste ?
Justement, peut-être ce que Mère Thérèse a dit, c'est-à-dire le souci de l'autre, un monde plus juste. Une soif de justice.
Est-ce qu'il est nécessaire d'être membre d'une église ou d'un parti pour
Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Mère Teresa appartient à l'Église catholique, elle ne la rejette pas. Mais par là aussi, elle est universelle, elle appartient à tout le monde. Elle est bien au-delà de l'institution qu'elle représente, bien au-delà de l'Église. Même si l'institution est utile, parce que l'institution a ses pesanteurs, elle a aussi ses avantages. On vit dans l'institution. Vous-même, vous vivez dans l'institution, n'est-ce pas ? Moi, j'en vis aussi, et j'y vis, et je la supporte, et quelquefois, j'en tire des avantages.
Donc, en 73, vous entrez au Parti communiste, vous en sortez en 78, oui. Et alors qu'est-ce qui se passe à partir de là ?
Un grand vide, jusqu'à ma rencontre avec Chabanis. C'est-à-dire en 79.
Et que vous avez rencontré par hasard, comme vous m'avez un peu...
Tout à fait par hasard. Et ce que je voudrais dire, c'est même avant 79, parce que ma première chance de journaliste, Christian Chabanis me la donne, il est lui-même rédacteur en chef de Famille Chrétienne, et il m'engage à Famille Chrétienne, alors que je suis toujours en carte au Parti communiste. Mmh. Dire ça, c'est une ouverture fantastique aussi. Quel bonhomme.
Et qu'est-ce qui s'est passé entre Chabanis et vous pour qu'il y ait ce changement ?
J'en sais rien. L'amour, vous savez, on dit que souvent l'amour est trinitaire, qu'il y a une troisième force comme ça qui unit les êtres. C'est irrationnel, ça ne s'explique pas.
Bon, enfin, l'expérience de l'amour, vous l'avez quand même de façon extrêmement concrète. Vous êtes marié, vous avez des enfants.
C'est aussi une expérience de l'amour très concrète. J'ai un enfant, oui.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette paternité, justement, à un moment où tant de jeunes vivent, maritalement, mais ne souhaitent pas nécessairement avoir des enfants. Et qu'est-ce que tout ça a représenté pour vous, le mariage, la famille ?
Je me suis marié après avoir eu mon fils. Mmh. D'ailleurs, j'ai vécu en union libre. J'ai eu Arnaud. Enfin, nous avons eu Arnaud, parce que on était deux quand même pour l'avoir. Et nous nous sommes mariés après. Et pour moi, ce qu'Arnaud présente, j'ai envie de lui communiquer l'amour de la vie pour qu'il la transmette lui à nouveau. C'est ça. Avoir un enfant, c'est ça. Lui donner l'amour de la vie.
Mais quand vous dites l'amour de la vie, qu'est-ce que vous voulez dire ? Enfin, c'est la poussée biologique, c'est l'élan vital. Qu'est-ce que c'est que l'amour ?
D'aimer la vie, d'aimer la rue, d'aimer les gens, d'aimer les boutiques, d'aimer les arbres, d'aimer tout ça. Je veux dire, le monde, c'est quelque chose de fabuleux. En même temps, j'étais très méchant tout à l'heure envers ce qui s'écrivait, mais je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter chaque matin au kiosque et d'acheter 4 ou 5 quotidiens. Et de regarder ce qui se passe dans le monde. c'est fantastique.
Mais il y a quand même beaucoup de garçons, de filles de votre âge qui pour aimer la vie se retrouvent, je ne sais pas, autour d'un match de football, d'une course de voiture, etc.
J'aime beaucoup le football, vous savez. J'étais journaliste sportif au début et je regarde passionnément. Je serai certainement à Los Angeles comme envoyé spécial d'un mensuel italien pour lequel je travaille depuis 10 ans. Oui. Et le sport aussi, au-delà même du résultat et des 22 bonhommes qui courent après un ballon, c'est aussi un moyen de communication extraordinaire. C'est pas seulement le résultat qui m'intéresse. C'est tous ces gens qui viennent là, en haut de la pyramide sociale, en bas, et qui se rencontrent. Et qui communiquent, plus encore, qui communiquent, parce qu'on parle de la communication, puisqu'on entre dans l'ère de la communication aujourd'hui. La communication, elle est partout. Qu'est-ce que c'est que la communication? C'est d'appuyer sur quelques boutons d'un Minitel et de se dire « Bonjour, coucou, c'est moi, voilà que je mesure tant, j'ai envie de te rencontrer. » Non, la communication sans la communion, c'est pas une communication. Et c'est peut-être le siècle de la communication, l'ère de la communication, mais où est la communion?
Est-ce que vous pouvez supporter la solitude?
Je commence. À 34 ans, j'ai aujourd'hui un besoin de méditation qui commence à monter en moi. Et c'est ces 20 minutes d'Herbstreit chaque soir que je lis, tout seul comme ça, dans ma chambre, la lumière allumée, une toute petite lumière. Et j'ai actuellement un besoin de faire, et ça va certainement se passer à la rentrée, une retraite dans un monastère ou dans un couvent, oui. Mais en même temps, j'ai aussi besoin de retrouver la rue, j'ai aussi besoin de retrouver le monde. L'un ne va pas sans l'autre. Dans Mère Teresa, c'est ce qui est très significatif, finalement. Elle entre en contemplation une heure ou deux heures par jour. Dans la plus complète des solitudes, elle prie. Elle en tire toute la force, toute la substance. Et tout le reste de la journée, elle va rentrer comme ça dans l'actif. C'est-à-dire, actif et contemplation ne font qu'un chez elle. C'est étonnant. Vous savez, Claude Vigée compare un peu son œuvre à une croix. L'horizontal, c'est le quotidien, c'est-à-dire la prose qu'il écrit. Et puis, le vertical, c'est la méditation, c'est la contemplation, c'est le poème, c'est l'absolu. Mais l'horizontal et le vertical se complètent. La croix, c'est un horizontal, un vertical. Si vous retirez l'un ou si vous retirez l'autre, c'est plus la croix. Mmh. Et je crois que la vie de l'homme, c'est ça. C'est la contemplation, la méditation, la prière, et puis aussi le quotidien. Je ne peux pas me passer des autres en même temps. Le groupe, c'est important pour moi.
Les copains?
Ah, très important. L'amitié a une grande, grande importance. C'est pour moi une valeur.
Mmh. Vous faites une différence entre le copinage et l'amitié?
Certainement, mais qui ne la fait pas? C'est un des poncifs, une fois, c'est passé, je crois, dans le langage populaire, copain et ami, c'est très différent. On vous dit un copain, on en a beaucoup, un ami, on en a deux ou trois. Ça, tout le monde le dit. Mmh. Je crois que oui.
Mais vous pourriez envisager de faire votre vie absolument seul?
Non, absolument pas.
Vous avez besoin des autres?
J'ai besoin des autres.
Qu'est-ce qui vous apporte?
Tout. D'abord, ils m'interrogent. Je veux dire, ils abattent mes certitudes. Ils me font reconsidérer. Ils me font progresser aussi, les autres. Vous parliez du sport tout à l'heure, mais un athlète, qu'est-ce qu'il fait progresser? C'est les autres sur le stade.
La compétition.
C'est la performance. Mmh. Oui. Les autres, les copains, les journalistes m'obligent à écrire mieux, à faire de meilleurs bouquins, à réussir mes interviews. Et en même temps, j'espère du moins, je les aide aussi à mieux s'accomplir.
Enfin, les gens avec qui vous vivez ne sont quand même pas des gens que vous trouvez occasionnellement sur votre route. J'imagine que vous faites des choix. Quels sont les critères de choix? Qu'est-ce que vous attend? Pourquoi vous avez choisi telle et telle personne pour être de vos amis? Bon, l'enfant que vous avez, il vous est imposé par la nature, d'une certaine façon. Mm-hmm. Bon, à un moment donné, vous avez choisi, mais enfin, vous ne l'avez pas choisi totalement. Il vous est, dans une certaine mesure, imposé. Il s'impose à vous et il est de plus en plus différent de vous. Quand même pas la même chose pour vos amis. Vous les choisissez en fonction d'un certain nombre de choses.
Mais comment vous les choisissez, vous? Je crois que vous les choisissez en fonction des mêmes choses que moi. Vous les choisissez parce que il y a des affinités intellectuelles, des affinités culturelles. Comment choisit-on ses amis?
Qu'est-ce que vous comptez leur apporter à vos amis?
En leur communiquer aussi, là aussi. C'est peut-être une grande prétention de ma part, leur communiquer l'amour de la vie. Je rencontre beaucoup de jeunes écrivains, de jeunes journalistes. Et ce que j'ai envie de leur communiquer, de leur dire, c'est que écrire, mon Dieu, c'est pas vain. On fait un livre comme ça, qui, c'est fantastique de faire.
Pourtant, toute cette littérature actuelle, un peu rébarbative quand on l'approche, semble plus soucieuse de l'amour des mots, du jeu des concepts que de l'amour de la vie.
Pas toute la littérature actuellement. Il est certain qu'il y a toute une partie de la littérature qui est, comme vous dites, avec qui est un jeu intellectuel, une joute intellectuelle, mais aussi il y a des choses de très très profondes qui s'écrivent. Je suis membre du jury littéraire de la Fondation de la Vocation, qui a fondé Marcel Bleustein-Blanchet il y a quelques 20 ans. M'occupe surtout des manuscrits poétiques. Eh bien, je vous assure, cette année, j'ai lu près de 400 manuscrits de jeunes poètes de moins de 30 ans. Eh bien, c'est vraiment étonnant. Je ne sais pas si on assiste au même phénomène au Canada, mais en Europe, il y a des choses vraiment étonnantes. Les manuscrits où on sent véritablement cet amour de la vie, cette lassitude du noir, de l'horreur, de la mort, d'il y a 10 ans.
Et pourtant, la mort est quand même toujours présente à la vie.
Mais est-ce que la mort, c'est la fin de la vie aussi? Est-ce que la mort, c'est la fin de la vie? Est-ce que
pour
c'est
vous...
un terme ou c'est un commencement? Je crois que le premier jour de la vie, c'est à la conception même, dans le ventre de la mère, que la mort est un passage qui ne signifie pas la fin de la vie. Je crois à la vie éternelle, sinon je n'aurais pas écrit ce livre.
Vous me disiez que vous êtes maintenant, enfin c'est ce que vous venez de dire il y a quelques minutes, que vous êtes chrétien, que vous êtes croyant.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Ça veut dire, et j'en reviens à ça encore, vous allez dire que je me répète, à la vie éternelle. Ça veut dire, être croyant, c'est d'avoir cette profonde conviction qu'on ne mourra jamais, que l'homme est éternel. On discutait avec ces mêmes amis tout à l'heure au restaurant de l'art. Eh bien, j'aime beaucoup l'art. Mais quand je regarde un tableau de Bosch, ou j'entends une symphonie de Mozart, la première chose qui me vient, la première chose que je ressens, c'est ce sentiment éternel de l'homme. Et je repousse les gens qui font de l'art une idole. Je ne suis pas idolâtre de l'art. Mais je dis que ça aussi, l'art, c'est un moyen d'expression où l'on ressent l'éternité de l'homme. Mozart est toujours vivant, Beethoven est toujours vivant, ne me dites pas le contraire.
Oui, mais vivant parce que moi, je le fais vivre.
Voilà.
Parce que j'entre dans le chemin qui m'a ouvert et que je l'élargis.
Et
la vie éternelle, c'est la même chose?
Ah oui, je crois. Fermement. Je crois.
Et comment vous pouvez faire partager cette conviction que vous avez d'une vie éternelle à des gens qui ont votre âge et qui probablement sont un peu...
Je ne sais pas si je la fais partager. J'en parle. J'essaye pas de convaincre. Mais j'en parle. Maintenant, libre à mon interlocuteur de prendre ou de ne pas prendre.
C'est pas une fuite en avant, ça?
Non, je crois pas. C'est tout ce qu'il y a de plus réaliste. C'est tout ce qu'il y a de plus réaliste.
Qu'est-ce que ça signifie dans le quotidien, cette croyance à la vie éternelle? Comment ça modifie une vie au quotidien? Enfin, je reviens à votre image là de croix, d'horizontale et de verticale. Comment ça peut modifier une vie?
Et ça donne un sens à la vie. Quand j'écris un article, je défends l'amour de la vie. Je veux dire, dans tous mes articles, autrefois, c'est la rédactrice en chef de mon mensuel qui me disait « Mais il y a toujours le mot « vie » qui revient dans vos articles. » Oui, ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'entretien, je ne vois pas comment un incroyant à la vie éternelle peut arriver à écrire des articles et des livres. J'ai du mal. Ça devient vraiment là une joute intellectuelle. Et puis des jeux de mots, des belles phrases. Je connais comme ça des gens, pas besoin de les nommer, qui sont des mécaniques intellectuelles bien huilées, qui font des beaux livres, mais pas des livres profonds. Un livre profond, c'est un livre qui vous touche, qui vous mue, qui vous convertit. C'est ça la profondeur d'un livre.
Et comme croyant, comment vous situez-vous au milieu des autres croyants, particulièrement à ceux qui adhèrent à une église?
Écoutez, moi, j'adhère au Père, à Dieu, au décalogue et aux béatitudes. C'est-à-dire, on ne peut pas entendre les béatitudes sans ressentir au fond de soi-même une profonde révolution. dire, c'est la base de tout changement social. Aime ton prochain comme toi-même, ne tue pas. C'est la base de tout changement social.
Quel est le reportage que vous aimeriez faire?
Le reportage que j'aimerais faire? Je vais vous surprendre. J'aimerais interviewer Castro, à Cuba.
Pourquoi? Vous lui demandez quoi?
C'est un personnage qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours subjugué. Ce type, cette démarche de socialisation, cette démarche de vouloir que son peuple vive mieux, vive, sorte de la misère, ça ne peut pas être la démarche d'un incroyant. Et j'aimerais justement avoir un entretien avec lui sur la notion de Dieu dans son cheminement politique.
Vous pensez qu'il y a donc quelque chose de commun entre Mère Teresa et Castro?
Je pense.
Est-ce qu'il y a un reportage que vous refuseriez de faire?
Aucun.
Aucun.
J'ai refusé une fois d'aller aux Jeux Olympiques de Moscou en 80 et je le regrette profondément. Ça, c'est un de mes grands regrets. J'aurais dû y aller.
Votre amour de la vie, donc, n'exclut absolument rien au point de départ?
Oh, en 80, j'étais surtout très fanatique, je crois. Le fanatisme, c'est un aveuglement, hein. Ça met un mur devant le regard, ça empêche de voir l'autre, ça empêche de l'entendre aussi. Non, je crois que un reportage qui serait absolument sensationnel, ce serait de mettre en présence, par exemple, Castro et l'imam Khomeini.
Et vous pensez que du côté de l'imam Khomeini, il y a un amour de son peuple aussi?
Oui, certainement, mais il y a aussi quelque chose, c'est le cheikh Khaled Ben Tounes qui m'en parle, qui dit que Khomeini a été ressenti par le monde islamique comme un immense espoir. Et que il métaphorise en disant que c'est un bourgeon qui annonçait le printemps, mais qu'il y a un doigt malin, un doigt démoniaque qui a pressé le bourgeon pour le faire éclater et mourir. Je crois que c'est un peu ça, oui.
Balbon, je vous remercie.
Rappelons que Luc Balbon a publié Mère Teresa en notre âme et conscience. Il s'entretient dans ce livre avec des chrétiens, des juifs, des musulmans, une hindoue, un lama tibétain et quelques incroyants. Ce livre est paru chez Nouvelle Cité.